Jardin d'Isis, une émission réalisée par Marie-Agnès Salezada sur Radio-FM+, en compagnie de Yann Kerjoin à la technique. Chaque jeudi à 13h15 et 19h15 sur Radio-FM+, fréquence 91 à Montpellier. On peut retrouver les émissions sur les podcasts de Radio-FM+ dans la rubrique Poésie, Jardin d'Isis. Je reçois aujourd'hui dans Jardin d'Isis Jean-Claude Rivière. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Marie-Agnès.
Alors Jean-Claude Rivière, éditeur chez Ubique Art Édition et auteur. Alors nous allons commencer par parler de ce travail dans le monde de l'édition. Évoquer peut-être un petit peu l'historique de cette maison d'édition et l'implication de certaines personnes autour de la maison d'édition, dont Sylvie Chastain peut-être.
Alors cette maison d'édition, en fait, c'est au départ, je dirais, une danseuse, puisque étant moi-même à la recherche d'éditeurs, je me suis dit que la meilleure solution, c'était de se créer soi-même son propre outil. Je vais presque dire quoi qu'il en coûte, mais ça a été un peu ça au début. Et donc, maison d'édition qui, pendant les premières années, éditait généreusement 1 à 2 ouvrages par an. Et puis, est arrivé ce que nous avons vécu il n'y a pas si longtemps, une période de confinement, qui a entraîné à la fois l'envie de publier pour certains, et également la collision, la rencontre entre deux activités. Et c'est là qu'intervient Sylvie Chastain, puisque Sylvie n'était pas dans mon domaine éditorial, mais dans mon domaine atelier d'écriture théâtrale. Et donc nous avons fusionné les deux visions que nous avions de la culture, celle de l'édition, celle de l'atelier de travail autour de l'écriture, pour pouvoir donner la possibilité aux gens confinés de pouvoir à la fois écrire et ensuite être publié. Donc on a glissé de l'un dans l'autre ou de l'un vers l'autre et la maison d'édition a pris d'un seul coup un envol qui était totalement imprévu.
Donc vous éditez des publications de façon très régulière. Il y a d'ailleurs 5 recueils qui sont sortis au cours de cet automne 2021. C'est un travail phénoménal, vous allez peut-être nous en parler. Alors, des recueils qui sont consacrés à la poésie, aux romans, aux nouvelles, mais peuvent tout aussi bien être édités autour du travail artistique d'un peintre, par exemple, ou des rééditions.
C'est plutôt que la maison d'édition, puisqu'on parle de maison d'édition, a eu au départ 2 directions très différentes. La première, c'était donc elle supportait cet atelier d'écriture sous le nom de virtuelle écriture, puisqu'au départ, il s'agissait bien de cahiers qui n'étaient pas destinés à être publiés autrement que sous forme numérique. Et dans un deuxième temps, à force d'avoir des auteurs qui tournaient autour de cette idée d'être publié, il aurait venu également à l'esprit que peut-être il pouvait être publié tout seul. Ce qui fait que nous sommes passés très vite de ces cahiers, qui sont des cahiers de façon mensuelle, mis en place depuis le début du confinement, je disais tout à l'heure. Donc nous en sommes d'ailleurs au numéro 22 dans la conception, puisqu'il y a ceux qui sont publiés, ceux qui sont en cours de publication et ceux qui sont en cours de rédaction. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de rédiger le 22. Et à côté de ce travail, qui est un travail collectif, il s'est fait jour des désirs un peu plus précis de la part de certains auteurs d'être traités à part. Et le premier ouvrage qui est sorti, ça a été « Minuit » de Jacqueline Loup-Paris, qui s'est retrouvé être finalement lui aussi au confluent de cette période dite de confinement et du travail d'une personne qui voulait publier ses réflexions. Puisqu'en fait, ce travail, « Minuit », c'est la vision qu'elle a eue tous les jours pendant qu'elle était enfermée et qu'elle sortait à minuit prendre l'air, de cette espèce de monde qui se redécouvrait quand la nuit était arrivée et quand enfin on était libre de pouvoir respirer.
Donc là, nous parlons de la publication de la revue, publication virtuelle écriture Sylvie Chastain, éditée donc par Ubique Art. Donc cette revue publie sur un thème donné. Elle rassemble des poésies, des nouvelles, ainsi que des œuvres d'artistes peintres ou des photographes. Une très belle revue de superbe facture. Le format est agréable à découvrir. Assez inhabituel, 21 cm sur 21 cm. 21 cm. Ça fait un petit peu... ça fait quand même livre d'art, c'est très beau. En particulier, c'est rehaussé par ses nombreuses reproductions, parce que de nombreux textes sont accompagnés par une illustration proposée par l'auteur. Donc, ces cahiers paraissent, sont mensuels, paraissent à peu près 10 fois par an, avec un double numéro au moment de l'été, des fêtes de fin d'année.
Tout à fait.
Publié également, il y a une rubrique coup de cœur, coup de chapeau.
Ça, c'est une rubrique qui est assez nouvelle, parce qu'après tout, on n'est pas obligé non plus de se cantonner aux gens qui sont dans la publication du mois, et qu'on rencontre souvent des personnes auxquelles on voudrait donner la possibilité d'arriver aussi chez nous. Donc c'est le coup de cœur et le coup de chapeau pour aussi féliciter des gens qui se battent dans un domaine qui n'est pas toujours facile à maîtriser, celui de la culture et de la distribution de la culture.
Vous mettez votre travail donc à la disposition des artistes et des auteurs. Donnez un coup de projecteur sur leur travail et permettez à des textes ou des œuvres artistiques de sortir de la confidentialité. Permettre qu'ils soient édités, c'est un cadeau que vous leur faites.
Théoriquement, je dirais que c'est un cadeau qu'ils ont mérité, puisque
oui.
Je ne prends pas des gens de façon tout à fait normale, mais il faut qu'ils montrent réellement leur volonté et ils participent également à la distribution de leur propre publication, de leur propre ouvrage, ce qui fait que je considère que c'est un vrai partenariat et ce n'est pas de l'édition du type traditionnel où l'auteur se contente d'arriver, de donner son manuscrit et de serrer la main à l'éditeur. Là, on va jusqu'au bout, jusqu'à même participer à des opérations comme celle d'hier, où les auteurs se trouvent au contact de leur public, de leur lectorat.
Donc on y reviendra,
vous
nous parlerez de ça tout à l'heure. Et depuis le premier numéro, ce sont plus de 60 contributeurs qui ont pu être publiés. Des auteurs, des artistes régionaux, mais aussi des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Belges et même des Russes.
Tout à fait.
Je crois que vous avez choisi un extrait d'un texte écrit par Sylvie Chastain. À nous lire.
Alors là, c'est un texte qui est extrait non pas d'une publication du Bicard, mais en tout cas qui est extrait d'une pièce de théâtre de Sylvie Chastain, puisque Sylvie était aussi et surtout un auteur de théâtre. Et c'est un extrait de Fragment M qui a été publié en 2012. Au 19e siècle exactement, il y a deux formes de passagers, les familiers d'un futur gouverneur de l'époque et les marins. Bon, faut choisir son camp. Ah, c'est malin, ça. Mais non, ce n'est pas du tout l'histoire de Pince-moi et Pince-Miss dans un bateau. Quoique, bien, on va dire que tout ceci sont des privilégiés et tout cela de simples marins. Comment ? Vous trouvez que c'est un peu simpliste ? Simpliste ? Hein ? Alors ça va être facile de me répondre. Écoutez bien. Les conflits à bord sont tels que notre bateau finit par s'échouer. Pour se sauver de la noyade, on déploya un solide canot et un joli radeau. Vous ici, vous êtes du canot. Vous là, vous êtes du radeau. Mais n'ayez crainte, ceux du radeau, le commandant s'engage à vous remorquer par des cordages liés au canot. Oui, bien sûr, de ce fait, le canot est ralenti par le radeau. Non, pas du tout. Dans mon histoire, on ne se demande pas les petits bateaux ont-ils des jambes. Et arrêtez de croire que mon petit jeu est mièvre. La lenteur du convoi est incompatible avec le manque de vivres. Soit, messieurs dames du canot, nous y voilà. Mais on peut imaginer tous ensemble que des secours peuvent arriver d'un moment à l'autre. N'est-ce pas ? Allons même, tiens. Imaginons que vous êtes le commandant. Que décidez-vous ? Alors ? Allez, vous êtes le chef et vous ordonnez. Vous ordonnez ? Ohé, du bateau, vous ordonnez quoi ? Ne vient-on pas dans ce groupe pour vaincre l'impuissance à parler ? Vrai ? Alors, bouche bée pour tout le monde ? Je veux bien vous savez une petite réponse, moi, peut-être pas la plus judicieuse, mais c'est l'authentique réponse sans appel du commandant de la frégate française La Méduse en 1816. Tranchement net des cordages. Oui, trancher d'office les cordages pour sauver ceux du canot au détriment de ceux du radeau. Ce fut sa cruelle réponse. Ainsi, les nombreux marins, irrémédiablement abandonnés, de force sur le radeau, aussitôt détachés du canot, furent voués au pire. Que devinrent-ils ? Suicide, noyade, strangulation, égorgement, faim, soif, beaucoup périrent. 8 survivants, uniquement 8, ne durent leur vie qu'au cannibalisme. Oui, c'est ça. Au-delà de l'horreur, ils expliquèrent que leur seule attache solide fut bah, vous ne devinez pas. Mais m'écouterait-on enfin ? Leur seule attache fut l'espoir.
Nous sommes dans Jardin d'Isis avec Jean-Claude Rivière, éditeur. Les cahiers ou revues que vous éditez portent le nom de Virtuelle Écriture Sylvie Chastain. Ils sont publiés sur Calaméo en intégralité, accessibles gratuitement sur le net, en une volonté d'être accessibles à tous. Cependant, on peut aussi les acquérir à prix abordable au format papier, ce qui permet d'avoir l'ouvrage en main, également on peut s'abonner, ce qui permet de diminuer le coût des ouvrages, mais qui sont proposés à un prix tout à fait abordable et quelque chose de modeste, enfin une contribution modeste de la personne qui l'acquiert. Et ce travail, j'insiste sur le fait que vous l'effectuez seul, il me semble, et pour arriver à boucler toutes ces publications, donc après, que ça soit la revue et également le travail d'édition en roman, nouvelle, vous vous attelez à un travail de bénédictin. Pour ce faire, vous vous imposez des journées et des nuits de travail. On est absolument dans le domaine de l'engagement en faveur des auteurs et des artistes, Jean-Claude.
On peut dire qu'il y a une sorte d'abandon complet de certaines parties de ma vie à ce travail, qui n'est d'ailleurs plus un travail, c'est, je dirais, devenu une sorte de nécessité vitale, donc c'est une sorte de respiration. Mais c'est également tellement important à la fois de sentir que l'on fait quelque chose qui est profitable, qui est également, qui permet également de mettre à certaines personnes ce qu'on appelle le pied à l'étrier. Donc, je pense que le travail est très très vite compensé, enfin la contrainte du travail, par les bonheurs que l'on peut rencontrer au fur et à mesure de la journée, par les réactions des uns et des autres. Donc, c'est très positif tout ça.
Oui, ça relève du domaine de la passion. Vous ne l'avez pas dit, mais c'est ce que je ressens. Alors, vous révélez un véritable engouement pour ce travail d'éditeur, mais peut-être aussi convient-il de faire un retour sur votre formation. Est-ce que vous avez fait des études littéraires ? Je crois que vous avez un parcours assez atypique, Jean-Claude.
Un peu de tout, oui. On peut dire que j'ai un parcours où il y a des études médicales. Oui. Commencé il y a longtemps et abouti pour être inutilisé. Ensuite, j'ai continué dans le domaine de l'histoire et en particulier de l'histoire médiévale, ce qui m'a permis de m'intéresser beaucoup à la littérature, puisque qui dit histoire dit travail sur des documents, et en particulier le Moyen-Âge, qui est une période très riche en matière de documentation. Et puis, de là, j'ai glissé vers la conservation de certains lieux et de certaines choses, ce qui m'a amené à m'occuper de peintures et de décors peints médiévaux. Et ça a été un peu la dernière partie de mon métier, enfin de ma carrière dite professionnelle. À côté de ça, bien sûr, beaucoup d'intérêt pour l'écriture qui s'est manifesté très vite et qui a duré pratiquement jusqu'à aujourd'hui, enfin, j'espère qu'il continuera à durer même au-delà. Et cet intérêt pour l'écriture m'a permis de publier depuis... je crois que ma première publication doit dater de l'époque où j'avais 17 ou 18 ans, des petits recueils de poèmes d'abord, et puis de plus en plus souvent des ouvrages un peu plus complets. Sauf que on connaît l'adage que le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Donc il semblerait qu'aujourd'hui, le dernier maillon de la chaîne ou la dernière roue de la charrette dans la maison d'édition, ce soit l'éditeur lui-même qui a plusieurs manuscrits dans son tiroir mais qui hésite à les sortir. Parce qu'il y a toujours un nouvel auteur qui est là et puis qui a besoin, parce que c'est quand même important aussi de lancer des gens nouveaux et puis de faire connaître de nouvelles facettes de la littérature. Donc je remets mes petites écritures dans leur tiroir et elles repartent pour une certaine période de purgatoire, voilà.
Donc, c'est l'occasion d'aborder votre écriture, justement. Le recueil que vous avez publié en mai 2021, donc chez Ubicart, s'appelle « Pandémie et autres facéties ». Je vais vous lire ce qu'en a dit Sophie Chastain. Le recueil « Pandémie et autres facéties » signé Marc Ellie, donc votre nom d'auteur, pourrait s'assortir d'une pléthore d'autres qualificatifs. Caustique, acéré, incisif, satirique, sarcastique, saignant, oppressant, terrifiant. L'auteur emprunte au registre de la SF pour mieux arroser au vitriol notre société actuelle aux accents liberticides et inquiétants. Ces nouvelles noires ne cèdent pourtant pas au pessimisme, la dérision, l'humour et l'espoir se frayant parfois des chemins détournés. Si la pandémie sévit, l'imagination de Marc Lévy contamine positivement son habilité à raconter et une sorte de remède anti-confinement. Attention au risque d'accoutumance. À la lecture, fiction et vérité entremêlées, tombe le masque et on en redemande. Et je vais vous lire quelques extraits. Alors, en préambule, Marc Ellie cite « Dans ces 11 histoires de pandémie », c'est sur une préface rédigée par Paul Kudzi, « l'auteur invite à voir tout ça en noir, tout ou presque. Il y a bien un des héros qui s'envole dans les nuages après avoir fait connaissance d'étranges archanges. Car Marc Ellie est un idéaliste qui regarde le monde depuis les étoiles et en fait un portrait à la cide nocturne avec ce rire venu de l'excès, de l'outrance et du désespoir. » Et en préambule de la première nouvelle, une citation de Gustave Le Bon. La liberté n'est le plus souvent pour l'homme que la faculté de choisir sa servitude. Combien vrai ! L'homme se rapproche, alors cette première nouvelle, il y a un homme qui se rapproche de plus en plus d'un des militaires qui l'interpelle. « Stop ! N'allez pas plus loin et montrez vos mains !» L'individu marque un instant d'hésitation, ralentit le pas avant de brusquement écarter les pans de son long pardessus. Dans chaque main, il brandit un désintégrateur moléculaire. Il n'a pas le temps d'en faire usage. Avec un synchronisme impressionnant, les miliciens viennent de l'abattre de 3 rayons fulgurants. L'homme s'écroule, percé de 3 orifices fumants. On vous avait dit que c'était impitoyable. La nouvelle, la révolte des Gutenbergas aeruginosa. Découverte par Gutenberg, un savant moine du XVe siècle, les bactéries intelligentes ont accompagné une avancée majeure pour l'histoire de l'humanité. Après apprentissage, la Gutenbergas aeruginosa est capable de s'attaquer à une plaque de cuivre sur laquelle elle grave les caractères du texte qu'on lui a fourni. On continue. À la suite d'une réunion extraordinaire du Conseil de la Couronne, Louis XXV décrète l'état d'urgence sanitaire. Cela m'a fait beaucoup rire. Une autre nouvelle, masque et degrés Celsius, je suppose.
Non, masque
Enco. Enco, excusez-moi.
Masque
Enco. Masque
Enco. Masque et compagnie.
Alors, avec une citation, son visage est entièrement couvert d'un masque semi-opaque. Vu de l'extérieur, impossible de déterminer selon quelle technologie, avec quel matériau est fabriquée cette deuxième peau qui garantit l'anonymat. Une citation, un extrait de Akuri Murakami.
Murakami, qui est un très, très grand auteur japonais,
oui.
Prix Nobel, si je me souviens bien, ou en tout cas qui a été cité pour le prix Nobel de littérature.
Marc se prépare à sortir de chez lui. Dans la rue, il sait qu'il n'y aura pas de surprise. Toutes les personnes par catégorie sociale ou par appartenance professionnelle portent des masques similaires aux siens. Inspirés par le théâtre No, ils sont réalisés en plastex, semi-translucides et possèdent une relative souplesse, laissant au visage la possibilité d'exprimer toute une gamme de mimiques de sentiments. Cette décision du port du masque, devenue très vite mondiale et obligatoire, a été prise en 2020 suite à une lourde pandémie aggravée par une importante pénurie de ces matériels. Donc on se rend compte que l'humour est très présent, Marc.
On va dire que ce n'est pas forcément que triste, toutes ces petites histoires. D'ailleurs, rappelons-nous que le titre, c'est « Pandémie et autres facéties ».
Oui.
Ce qui veut dire que la pandémie peut être aussi facétieuse.
Tout à fait.
Est-ce que c'est bien le cas ? Peut-être pas pour tout le monde, mais on peut la vivre aussi comme une lourde plaisanterie.
Donc, vous disiez « voyage en uchronie », donc c'est un mot, un jeu. Alors, c'est un terme qui existe.
C'est... Ah, uchronie existe, voilà. Vraiment, oui. Je ne l'ai pas inventé. Dommage, ça aurait été sympathique. Mais non, c'est bien un mot qui existe. Et l'uchronie correspond justement à cette direction dans laquelle on peut se tourner pour voir d'autres possibles.
Oui.
À toute situation, il y a des possibles qui se présentent.
Oui, à toute situation.
Et tout ne réussissent pas.
Voilà, toute situation dans le réel. Donc, je vous invite à lire une petite nouvelle qui s'appelle « Tueur de rats ».
Ah ben là, vous me mettez dans les mains une nouvelle qui est la plus ancienne du recueil, puisqu'elle remonte vraiment au tout début de mes années écriture. Je commence au début, vous voulez que j'attaque directement en totalité ?
Peut-être une page...
Elle est très courte, elle fait une page et demie.
Alors on va l'écouter en intégralité.
« Tueur de rats ». Du rat, il ne vit que le museau. Sa chaussure droite, terminée par trois pointes acérées, partie dans un shoot impeccable et cueille l'animal avant qu'il ait pu se replier dans l'ombre. Un trait sanglant et encore agité de soubresauts laissa échapper un flot d'entrailles sur la chaussée. La silhouette claudiquante jeta un coup d'œil furtif vers l'angle de la rue, puis, posant son talon ferré sur la tête de la bête éventrée, l'écrasa d'un coup sec. Un claquement mou, pas même le bruit d'une noix que l'on casse. Dans le placard du hall, je range mes armes à leur place habituelle, sur la troisième boîte de chaussures, à gauche. Sur le carnet à couverture noire, à la date du 13 décembre, une croix. La lumière éteinte, lovée sur une chaise de cuisine, j'écoute. Un craquement qui reprend à intervalles réguliers en provenance du fond de la petite pièce. Déjà, mes doigts se crispent, quelques gouttes perlent à mes tempes. Le tueur déplaça lentement sa jambe torse, la jambe rongée, et la douleur revint, venue du fond de son enfance. Seul un rat mort est supportable. Seule la mort d'un rat peut faire oublier. Le bruit a cessé et je me calme. D'un revers de main, j'essuie mon front moite. L'attente reprend. La petite aiguille rouge court sur le cadran lumineux, là, à mon poignet. 11h30. Et pourquoi pas un de plus ce soir pourquoi pas un de moins dans cette sale ville. Et je termine sur une citation d'Albert Camus. Le docteur lui demanda s'il avait vu de nouveaux rats. « Ah non, dit le concierge, je fais le guet, vous comprenez, et ces cochons-là n'osent pas. » La peste, Albert Camus.
Ils ont sonné à ma porte, je suis sorti de mon lit. Ils sont entrés dans ma chambre, ils m'ont dit de m'habiller. Le soleil par la fenêtre ruisselait sur le plancher. Ils m'ont dit, mets tes chaussures, on chantait sur le palier. J'ai descendu l'escalier entre leurs deux uniformes. Adossé à une borne, un clochard se réveillait. Ils me donneront la fièvre, la lumière dans les yeux. Ils me casseront les jambes à coups de souliers ferrés. Mais je ne dirai rien, car je n'ai rien à dire. Je crois à ce que j'aime, et vous le savez bien. Ils m'ont emmené là-bas, dans la grande salle rouge. Ils m'ont parqué dans un coin, comme un meuble, comme un chien.
Ces cahiers, virtuelle écriture Sylvie Chastain, se présentent comme une vitrine offerte avec une grande générosité, je le dis, je le souligne, aux auteurs et aux artistes. Chance pour eux de diffuser leur écriture et leurs œuvres sans avoir à passer le couperet d'un comité de lecture. Mais pour autant, on remarque une belle qualité d'écriture ou de production d'œuvres, des œuvres artistiques présentées qui échappent à la médiocrité. Et je vais vous lire un petit texte écrit par Jacqueline Lou Paris. Sur un cahier dont la thématique était
Le lieu magique.
Le lieu magique. Un lieu magique. Alors une très belle photo, Bretagne de granit rose, photo de l'auteur Jacqueline Lou Paris et un texte de sa plume. Bretagne de granit rose, magie de mes lieux aimés. Surgit des mariages de granit et de vent, de sel et de bruyère. Voix mystérieuse dans les profondeurs des marmites de sorcières où chantent elfes et corrigans. Les feux follets, entre les genêts, inventent l'or et le rose, le mauve et le bleu et dansent dans la lande les secrets par les druides cachés. Accrochés aux menhirs, aux dolmens et aux croix, les embruns nous racontent, dans la langue de laine rugueuse, des légendes de barques et de morts, de vagues et d'encous, de brumes et de ciels immenses. Alors, pour nos auditeurs qui auraient envie de découvrir d'autres, votre travail, Jean-Claude Rivière, comment doivent-ils procéder ou peuvent-ils se rendre?
Alors, il y a plusieurs accès possibles. D'abord, on peut tout simplement découvrir ce que c'est que ces cahiers par la façon dont nous en parlons sur un groupe Facebook. Alors, évidemment, les groupes Facebook, ça a ses limites, mais c'est au moins l'avantage de permettre de se rencontrer facilement et, oui, même si c'est virtuellement, d'échanger. Oui.
Et c'est un outil de communication
tout à fait.
Mis à la disposition.
À condition, oui, de savoir s'en servir.
Oui.
Comme tous,
oui,
les outils, oui, on peut toujours, oui, être très maladroit et faire, oui, d'un outil quelque chose de très cruel et de très dangereux. Donc, sur ce groupe qui s'appelle Virtuelle Écriture, tout simplement, on peut accéder et avoir des renseignements sur les activités du groupe autour des cahiers. Ça, c'est le premier accès. Ensuite, l'on peut bien sûr participer à ces publications en donnant des contributions, sachant qu'on va trouver sur le groupe Virtuelle Écriture, le groupe Facebook, le thème mensuel. Ce mois-ci, par exemple, le thème a été donné jusqu'à la fin du mois, et c'est un thème qui s'appelle « Sur un quai de gare ». Vous voyez, on est sur le voyage. On peut ensuite directement accéder aux informations sur le site internet de la maison d'édition, qui est donc ubic-art-édition.fr. Et donc là, on peut accéder à tous les renseignements. Il suffit d'envoyer ensuite ces contributions, et si elles arrivent dans les délais et si elles correspondent également à nos desiderata, on a tout de même une certaine notion de qualité, ben elles seront publiées.
Vous parliez de la signature d'hier, je souhaitais revenir. Il y a eu une signature dans une galerie d'art à Montpellier, pendant laquelle 5 auteurs ont pu présenter leur recueil au public.
Donc là, il y a effectivement un troisième accès. On peut accéder au groupe de travail par Internet, par Facebook, par le site qui permet à la fois d'être renseigné sur les activités et d'acquérir ses cahiers. Et maintenant, depuis hier, officiellement, nous avons un partenaire à Montpellier qui sera le dépôt de la maison d'édition. Ce partenaire, c'est la galerie Marc Devaux, 32 rue Jean-Jacques Rousseau. Et hier, nous avions inauguré à la fois notre partenariat et la sortie d'une nouvelle collection, dont peut-être je pourrais donner quelques précisions. Collection qui va être destinée aux nouveaux auteurs pour pouvoir être publiée pour la première fois dans une édition de qualité, mais à petit prix, puisqu'il s'agit bien d'offrir au maximum de personnes l'accès à nos publications.
Jean-Claude Rivière, vous vous inscrivez dans une volonté de faire vivre la poésie et l'écriture en quittant les sentiers battus, en une attitude militante. En cela, vous méritez notre gratitude en tant qu'auteur et respect pour ce travail qui est en quelque sorte un genre de défi. Jean-Claude.